Chapitre 3. Trop grande pour son environnement, la bête arrachait sur son passage les branches des chênes qu'elle semblait considérer comme de vulgaires brindilles. Dans un concert de rugissements, elle dévasta le site, ne laissant des arbres que des guirlandes de bois, comme une couturière qui taille des rubans dans un carré de tissu. Son œuvre accomplie, elle déracinait les souches et les jetait au loin sans le moindre effort. Haletant comme un soufflet de forge, elle se campa devant les trois intrus. Bannon courut se réfugier au milieu des guerriers de pierre, comme s'il pouvait les aider.
« C'est quoi ce monstre ? »
cria-t-il.
« Chaque jour, nous découvrons de nouvelles choses, » dit Nathan.
Les pieds bien plantés dans le sol, il saisit son épée à deux mains pour une meilleure prise.
« Mais se battre normalement suffira, je pense. »
Nietzsche vint se placer devant les deux hommes, fléchit les doigts et sentit la magie crépiter dans son corps.
« Recule !»
ordonna-t-elle au monstre. L'abomination la faisait penser à un ours enragé, ou plutôt à ce qui était jadis un ours mais qui restait enragé. Sur sa fourrure couleur cannelle, du pu et du sang séché formaient des zones rougeâtres, et ses yeux énormes brillaient comme des brasiers jumeaux sur son crâne démesuré. Évoquant vaguement de la cire fondue, un côté de sa gueule était carbonisé, la joue assez dévastée pour offrir une vue répugnante sur des crocs jaunâtres pointus comme des dagues. Et ces flots de bave mêlés de sang qui dégoulinaient d'une bouche aux gencives éclatées. Par endroits, le corps de la créature était protégé par des plaques d'armure lisses qui faisaient penser à une carapace de homard, un mets raffiné que les pêcheurs proposaient parfois sur leurs étals du port de Graffan. Apparemment, les plaques étaient greffées sur le corps du monstre, et des runes semblables à celles que portait Mra étaient gravées au fer sur les zones libres de sa fourrure. À l'évidence, l'ours de cauchemar avait la ferme intention de tailler les intrus en pièces. Plus qu'un chasseur en quête de proie, comprit Nietzsche, c'était une créature rendue folle par la souffrance. Au vu de son corps mutilé, impossible de douter qu'un humain malfaisant l'avait dressé sans lésiner sur la cruauté. De quoi lui donner envie de tuer tous les gens qu'elle croisait. Même si elle comprenait les motivations du monstre, la magicienne n'avait aucune intention de le laisser blesser ses compagnons. Presque sans y penser, elle invoqua deux boules de feu de sorcier, une dans chaque main, et s'apprêta à les lancer. Les flammes impossibles à éteindre consumeraient l'ours de l'extérieur et de l'intérieur, le réduisant en cendres. Le premier projectile percuta le monstre à la poitrine alors qu'il reprenait sa charge. Explosant à ce contact, la boule transformée en une myriade de gouttelettes de feu ruissela sur le corps de l'ours, en jaillit comme autant de minuscules insectes embrasés et alla s'écraser sur les arbres déracinés qui flambèrent comme de la paille. La deuxième boule coula sur la fourrure du monstre comme de l'eau sur les ailes d'un canard.
« Il est insensible au feu de sorcier !»
cria Nathan. Nietzsche ne perdit pas de temps à se lamenter. Dotée d'un arsenal de sortilèges, elle opta pour celui qui arrêterait le cœur de l'ours. Plus d'une fois, dans des circonstances délicates, elle avait enveloppé de magie le cœur d'un adversaire avant de l'écraser avec son don. Aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas. Impossible d'atteindre le cœur de la créature, ou quoi que ce soit d'autre dans son corps. Au moment où le monstre allait la percuter, Nietzsche tendit les deux mains, paume vers l'extérieur, et généra un puissant bélier d'air. Frappé à la poitrine, l'ours tituba, se rétablit et repartit de l'avant, les runes gravées sur sa peau émettant une faible lueur. Nietzsche comprit ce qui se passait. Grâce au même type de runes, Mara aussi était immunisée contre la magie. Quelqu'un avait muni l'ours de protections identiques. Voyant une patte s'abattre sur elle, la maîtresse de la mort tenta d'esquiver, mais une griffe lui entailla le flanc et la violence de l'impact la fit basculer en arrière.
« Laisse-nous faire, magicienne !»
lança Nathan.
« Fiston, avec moi. Ta lame n'a plus servi depuis des jours. »
Suivant son mentor, Bannon chargea en hurlant et son épée laissa une plaie béante sur la patte gauche de l'ours dément. Claquant des crocs, celui-ci tenta de frapper le vieux sorcier avec son membre blessé, mais sa cible s'écarta promptement. Pivotant sur lui-même avec la grâce d'un danseur, le vieil homme frappa de nouveau, mais ses coups pourtant puissants semblaient aussi peu efficaces que des piqûres d'insectes. Décrivant dans l'air un grand arc de cercle, la lame de Bannon s'abattit sur la patte gauche de l'ours et lui coupa quatre doigts d'un coup. Nathan repartit à l'assaut. Après avoir frappé une plaque d'armure, sa lame rebondit, inoffensive. Dès qu'elle se fut relevée, Nietzsche vit que le feu de sorcier se répandait, embrasant la végétation alentour. Si on ne faisait rien, la plaine finirait par devenir un piège mortel. Mais avant de combattre l'incendie, il fallait neutraliser le monstre. Puisqu'elle ne pouvait pas frapper directement l'ours enragé, Nietzsche fit léviter un tronc d'arbre en flammes, puis le propulsa sur sa cible. Cette fois, la fourrure souillée de sang et de pus s'embrasa. Écartant le tronc comme s'il s'agissait d'un insecte importun, le monstre fondit de nouveau sur Nathan et Bannon. Son don oublié, Nietzsche dégaina ses deux couteaux. Pour faire des dégâts avec des lames si courtes, elle allait devoir s'approcher dangereusement de l'ours. Au risque qu'il lui inflige une étreinte mortelle, ses côtes brisées comme des brindilles, mais il fallait en accepter l'augure. Nathan attaqua de nouveau, la créature le repoussant d'un revers de la patte. Touché de plein fouet, le vieil homme vola sur une vingtaine de pieds, s'écroula sur des broussailles pas encore enflammées et ne bougea plus. Mara choisit cet instant pour bondir. Beaucoup plus petite que le monstre, elle restait néanmoins une machine à tuer dressée dans les arènes d'une lointaine contrée. Ses armes brandies, Nietzsche courut au secours de sa sœur d'élection. Alors qu'une lame ripait sur une plaque de métal, l'autre s'enfonça dans l'épaisse fourrure. Comme un serpent qui se détend et se détend encore, la magicienne frappa à coups redoublés puis s'écarta. Avec ses griffes et ses crocs, Mara élargit les blessures du monstre jusqu'à ce que ses entrailles jaillissent à l'air libre. Bavant plus que jamais, l'ours parvint à blesser la panthère avec sa patte indemne, mais ça ne suffit pas à le débarrasser de cette furie. Visant le ventre, Bannon enfonça sa lame jusqu'à la garde. Avec ses deux pattes ensanglantées, l'ours tenta d'arracher la lame, puis il s'en prit à son propriétaire. Bannon recula et, dans le même mouvement, retira sa lame. Tandis que Mara continuait son œuvre dévastatrice, Nietzsche approcha de la gueule du monstre au point de sentir son haleine fétide. Quand elle fut assez près, elle enfonça un de ses couteaux dans l'œil gauche de sa cible, puis poussa pour traverser l'os et atteindre le cerveau. Tapant sur le pommeau comme si c'était l'embout d'un burin, elle transperça le crâne du monstre. Si la manœuvre ne le tua pas, la magicienne profita de sa position pour lui ouvrir la gorge avec son autre lame. Tranchant d'abord de la graisse et des tendons, elle trouva enfin la jugulaire, la coupa net et fut aussitôt aspergée de sang. Comme si elle avait trouvé un nouveau jouet, la panthère du désert recula avec dans la gueule une longueur d'intestin de l'ours désormais agonisant. Les yeux fous, une transe guerrière dans laquelle il sombrait parfois, Bannon leva son épée, la plongea dans la poitrine du monstre et lui transperça le cœur. Cessant de lutter, la créature torturée et mutilée consentit enfin à mourir. Comme s'il n'avait rien vu, Bannon continua à frapper. Quand il prit conscience du massacre, il éclata en sanglots. De peur et de soulagement, bien sûr, mais aussi de compassion pour l'ours victime de la cruauté humaine.
« J'aurais préféré le tuer plus proprement, »
souffla-t-il. Encore sonné, Nathan se releva et chassa les feuilles qui s'accrochaient à ses vêtements.
« Désolé de ne pas avoir été plus utile, » dit-il en portant une main à sa tête douloureuse. « J'ai été mis sur la touche comme un joueur de Jala blessé. »
Même si l'ours bougeait encore, les spasmes de l'agonie, Nietzsche se concentra sur le feu qui les entourait. Les buissons et les arbres brûlaient comme de la paille, et les monticules de feuilles mortes fournissaient un combustible inépuisable. En hauteur, les flammes se propageaient déjà de branche en branche. Les cinq soldats pétrifiés, jadis grisâtres, étaient à présent couleur de suie. Nietzsche inspira à fond pour se calmer, puis elle se concentra sur son Han. Un incendie de forêt, voilà un problème que son don pouvait résoudre. Invoquant de nouveau l'air, elle érigea un rideau autour des flammes pour les isoler du reste de la forêt. Quand ce fut fait, elle leva les mains, décrivit un cercle dans l'air et déclencha un tourbillon qui fit voler des milliers de feuilles puis aspira l'oxygène qui alimentait les flammes. Alors qu'elle vacillait, la magicienne se focalisa sur elle, les força à se ratatiner, puis les réduisit à une colonne de feu qu'elle relâcha ensuite dans le ciel. Dans le cœur du cyclone, Nathan et Bannon s'accrochèrent à un arbre et laissèrent leur ami accomplir son œuvre. Couchée sur le sol, les oreilles aplaties, Mara attendit la fin de la tempête qui projetait des feuilles et des branches dans toutes les directions. Quand toutes les étincelles furent soufflées, quelques colonnes de fumée témoignant encore de leur existence, Nietzsche cessa d'alimenter son sortilège. Aussitôt, le cyclone mourut et toute la végétation survivante sembla soupirer de soulagement. Très lentement, des feuilles à demi carbonisées retombèrent sur le sol. Nathan se passa une main dans les cheveux pour en chasser les brindilles, puis il sourit devant l'œuvre titanesque de Nietzsche comme si ça n'était pas si impressionnant que ça.
« Merci, magicienne. Au bout d'un moment, ça aurait pu mal tourner. Si je disposais de mon don, je m'en serais chargé moi-même. »«
Tout rentrera bientôt dans l'ordre, Nathan, » dit Bannon, résolument optimiste. « On trouvera cette ville. »
Les yeux brillants d'admiration, le jeune homme se tourna vers Nietzsche.
« C'était très impressionnant. »
Peu encline à complimenter les autres, la magicienne fit néanmoins montre d'une grande honnêteté.
« Ton épée a été très utile aussi. »
En réalité, Nietzsche enrageait de n'avoir pu vaincre avec son don. Se sentir impuissante la déprimait presque autant que Nathan.
« Quand j'ai vu les runes, j'aurais dû deviner que mon don n'affecterait pas le monstre. »
Une odeur pestilentielle montait de la dépouille qui gisait dans une flaque de sang. Pourtant habitué à se gorger de chair fraîche, Mara se tenait à bonne distance de l'ours, tous les sens aux aguets au cas où un nouvel attaquant se présenterait. D'une incorrigible curiosité, Nathan s'accroupit près de la carcasse et passa le dos de ses phalanges sur les étranges plaques greffées à la peau du monstre.
« Esprit du bien, qui a pu créer une telle abomination? Et pourquoi? Si un sorcier est assez puissant pour modeler la chair, pourquoi utiliserait-il ce pouvoir à de telles fins ?»
Sans détourner le regard du cadavre, Bannon essuya ses larmes, se barbouillant ainsi les joues de sang.
« Sur mon île, j'ai connu des gamins qui adoraient arracher les ailes des mouches ou faire griller des coccinelles vivantes. Parfois, ils torturaient des chatons ou des chiots. Hélas, on ne sait pas pourquoi les gens font des choses pareilles. »
Nathan se leva, épousseta son pantalon et ajusta sa cape sur ses épaules, puis il regarda Nietzsche, littéralement couverte de sang et d'entrailles.
« Magicienne, tu n'es pas belle à voir. »«
Je m'en doute, figure-toi. »
Nietzsche pivota sur elle-même pour évaluer les dégâts.
« Le feu doit avoir été visible à des lieux à la ronde. Et notre combat contre l'ours n'est sûrement pas passé inaperçu. Pour la discrétion, c'est raté. Nous avons proclamé notre arrivée. »
Méfiant, Bannon et Nathan sondèrent les environs. Assez loin dans la forêt, des branches craquaient et on entendait des murmures. Dressée sur les pattes arrière, Mara grogna et huma l'air comme si elle sentait l'odeur de la mort. Quand les voix furent plus proches, elle fila comme une flèche dans les broussailles.
« Quand le monstre a attaqué, elle n'a pas bronché, » dit Bannon. « Qu'est-ce qui peut l'effrayer ?»
Nathan releva son épée.
« Fiston, nous devrions peut-être avoir peur aussi. »«
Non, »
dit Nietzsche, ses deux couteaux au poing.
« Avoir peur ne sert à rien. » En revanche, il faut se préparer.
Elle resta de marbre, attendant l'arrivée des inconnus qui ne faisaient aucun effort pour passer inaperçus.